Chapitre 4 Versets 1 à 5 Citation de l'Écriture. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi, nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Fin de citation. Après avoir montré la différence entre la loi et la promesse, et la relation de l'une à l'autre, l'apôtre oppose maintenant la condition des croyants dans le christianisme avec celle des croyants juifs pieux sous la loi. Pendant la période de la loi, il y avait en effet de vrais enfants de Dieu, comme nous le savons par Jean 11, verset 52, mais ils étaient dispersés et ne connaissaient pas Dieu comme leur père, ni leur relation en tant que fils. Pour illustrer cette condition, l'apôtre les compare à un enfant héritier d'un grand héritage. Quand il est encore dans l'enfance, il est sous des tuteurs et des curateurs et doit obéir. À cet égard, il est comme un esclave, bien qu'il soit seigneur de tout. De même, les croyants sous la loi étaient tenus dans un esprit de servitude sous des principes qui marquent le monde. En effet, tout homme naturel peut comprendre une loi qui dit ce que nous devons faire et ne pas faire, et que notre bénédiction dépend de l'obéissance à cette loi. C'est un principe sur lequel le monde cherche à régir toutes ses affaires. C'est toutefois une servitude pour le croyant. Car, tout en nous contraignant à obéir pour obtenir la bénédiction, il ne donne pas la force d'accomplir les exigences de la loi. En outre, il ne donne pas la connaissance du cœur du Père, ni l'accès au Père, la source de toute bénédiction. Tout a été changé avec l'accomplissement du temps. L'accomplissement du temps, ou plénitude du temps, n'est-elle pas survenue quand l'homme a pleinement manifesté le mal de son cœur et a entièrement manqué à répondre à ses responsabilités? Quand il a été démontré que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, et que tout était fini du côté de l'homme, ce fut alors que Dieu a agi dans sa pure grâce souveraine en envoyant son Fils né de femme, né sous la loi. Toute la vérité quant à la personne de Christ est présentée dans ce court verset 4. Il est le Fils, c'est-à-dire une personne divine. Il est né de femme, c'est-à-dire un vrai homme. Il est né sous la loi, c'est-à-dire il s'est chargé de la responsabilité de ceux qui sont en vie sur la terre devant Dieu. Voilà donc quelqu'un qui connaissait le Père et qui pouvait révéler le Père, car il est le Fils. Voilà donc aussi quelqu'un qui pouvait racheter l'homme de la servitude de la loi, car il est devenu homme sous la loi, et il a parfaitement gardé la loi que l'homme avait violée, et la loi n'avait donc rien à revendiquer contre lui. Il était donc propre à accomplir la grande œuvre de la rédemption en prenant la place de ceux qui étaient sous la malédiction d'une loi violée. Cela, il l'a fait sur la croix. Béni soit son nom. Et le résultat en est que les croyants sont rachetés de la condamnation de la loi. La loi ne peut plus dire aux croyants « Tu as convoité et tu dois mourir ». Car le croyant peut montrer la croix et dire « Il est vrai que j'ai enfreint la loi et que je suis tombé sous sa malédiction, mais Christ est mort et je suis crucifié avec lui. Je suis donc mort à la loi et racheté de sa malédiction. » Les exigences de la loi ayant été satisfaites, la voie est libre pour que le croyant entre dans la bénédiction de fils, comme le dit l'expression « recevoir l'adoption » ou « afin que nous reçussions l'adoption ». Qui implique non seulement de recevoir la bénédiction d'être un enfant, mais la bénédiction d'être introduit dans la position de liberté et de faveur qui appartient à un héritier. Versets 6 et 7 Citation de l'Écriture Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père !» De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si fils, héritier aussi par Dieu. Fin de citation. Ensuite, la part d'un fils ayant été donnée, nous avons aussi l'Esprit. Nous ne recevons pas l'Esprit pour faire de nous des fils, mais étant fils, l'Esprit nous est donné pour nous donner la jouissance consciente de la relation, de sorte que nous pouvons dire « Abba, Père ». En outre, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Le glorieux héritage se trouve devant nous, mais déjà maintenant, nous pouvons jouir de la relation dans laquelle nous sommes amenés avec le Père. Dans ces versets, l'apôtre place devant nous, premièrement, l'incarnation par laquelle Christ est venu au contact de tous les hommes, comme né de femme, et au contact des Juifs, comme né sous la loi. Deuxièmement, la rédemption, ou rachat, par laquelle, grâce à l'œuvre de Christ, les croyants sont rachetés de la malédiction d'une loi violée. Et troisièmement, la venue du Saint-Esprit pour nous conduire dans la bénédiction de notre position comme fils. Il est bon de remarquer comment est maintenue la gloire de la personne de Christ comme fils. De manière répétée, à travers les âges, la personne de Christ a été attaquée, et sa relation éternelle de fils a été niée, en prétendant qu'il n'est devenu fils qu'à sa naissance. Dans l'effort de maintenir cette erreur, on a soutenu que le mot « envoyé » au verset 4 ne se réfère qu'à Christ comme envoyé après être né dans le monde. Il est donc bon de remarquer qu'une expression exactement semblable est utilisée au verset 6 au sujet de l'Esprit-Saint. Personne n'oserait prétendre que lorsque nous lisons « Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils », cela signifie que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé du ciel et que ses paroles ne s'appliquent qu'après sa venue sur la terre. N'est-il pas évident pour quelqu'un de soumis à la parole que l'Esprit-Saint envoyé du ciel était déjà l'Esprit avant de venir ? De la même manière, le verset 4 ne prouve-t-il pas aussi que le Fils a été envoyé du ciel et qu'il était le Fils avant de devenir homme ? Versets 8 à 11. Citation de l'Écriture. « Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de nouveau être asservis ? Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. Je crains quant à vous que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. » Fin de citation. Après avoir décrit la liberté des croyants dans la période chrétienne, en contraste avec la servitude des enfants de Dieu sous la loi, l'apôtre interpelle ces saints de Galatie au sujet de leur folie de se détourner d'une telle bénédiction pour retourner à la servitude de la loi. Il fut un temps où ils ne connaissaient pas Dieu et étaient asservis à ceux dont même la nature leur disait qu'ils ne sont pas des dieux. Par grâce, ils avaient été amenés à la liberté de connaître Dieu comme Père, et plus encore, d'être connus de Dieu comme des fils. Quelle immense folie de se remettre dans la servitude en retournant aux faibles et misérables éléments du monde. Ils observaient des jours, des mois et des temps et des années, comme si la bénédiction pouvait être assurée en s'acquittant d'un rituel extérieur à la portée de l'homme naturel, soit juif, soit païen. Il est vrai que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre exhorte les croyants gentils à avoir de l'indulgence pour les croyants juifs qui continuaient à observer certains jours spéciaux et à refuser certaines viandes. Mais ici, il montre que, pour un gentil, revenir à un système où l'on observe certains jours et cérémonies impliquait un retour non seulement au judaïsme, mais à l'idolâtrie du paganisme. Si l'apôtre considérait ces Galates à la seule lumière de ce qu'ils faisaient, il avait de quoi douter qu'il soit véritablement chrétien, car il n'est pas nécessaire d'être converti pour observer des jours et des saisons. Ceci est une considération solennelle pour la chrétienté qui a si largement recommencé à tomber dans l'erreur des Galates en revenant à des cérémonies extérieures et au respect de jours déclarés saints par les hommes. Le résultat prévu par l'apôtre s'en est suivi, à savoir que la chrétienté est largement tombée non seulement dans une forme judaïque, mais aussi dans l'idolâtrie du paganisme avec l'adoration des saints et le culte des images. Versets 12 à 18. Citation de l'Écriture. « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en prie. Vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que dans l'infirmité de la chair, je vous ai évangélisé au commencement. Et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Quel est donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut, mais ils veulent vous exclure, afin que vous soyez zélés à leur égard. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. » Fin de citation. Après les avoir interpellés quant à leur folie, il les supplie maintenant avec amour. Il les supplie d'être comme il était, car, bien que par naissance il fût juif sous la loi, il était devenu comme les gentils, affranchi de la loi. Écouter les faux docteurs pouvait, hélas, les avoir fait changer de pensée envers lui, l'apôtre, et se mettre à lui reprocher d'abandonner la loi comme chemin de la bénédiction. Mais lui n'estimait pas que ses reproches et ses insultes soient une atteinte à sa réputation comme chrétien. Il leur rappelle alors leur amour pour lui quand, au début, il était venu prêcher l'évangile parmi eux. En ces jours-là, il l'avait reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus, malgré qu'il fût parmi eux dans la faiblesse, sans excellence de parole ou de sagesse, qui aurait fait appel à l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, versets 1 et 4. En outre, il ne l'avait pas méprisé à cause de sa faiblesse physique. Leur amour pour lui avait été tel que, si cela avait été possible, ils lui auraient donné leurs propres yeux pour remédier à ses infirmités corporelles. Où avait donc passé le bonheur de ces temps de leur premier amour? Il leur avait alors prêché la vérité, et il continuait maintenant à leur dire la vérité dans son épître. Le considéraient-ils comme un ennemi, du fait qu'il plaçait la vérité devant eux? Hélas! La triste réalité était qu'au milieu d'eux, certains cherchaient à dresser ses seins contre l'apôtre pour s'exalter eux-mêmes. Leur zèle n'était pas pour la vérité, ni pour les saints, mais pour eux-mêmes. La chair est telle que sous couvert de zèle pour le peuple du Seigneur, on peut en arriver à rabaisser les autres pour s'élever soi-même, si la grâce de Dieu n'intervenait. Le zèle qu'ils avaient montré envers l'apôtre, lorsqu'il était présent parmi eux, était une bonne chose, mais ce serait très bien de persévérer en son absence. Versets 19 et 20. Citation de l'Écriture. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille à nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Fin de citation. Cependant, si leurs sentiments avaient changé envers l'apôtre, ses affections à lui, envers eux, n'avaient pas changé. Au début, il avait prêché Christ parmi eux avec de profonds exercices, et pareillement, il était maintenant, pour ainsi dire, en travail d'enfantement pour les ramener au premier amour et pour que Christ ait à nouveau sa juste place dans leur cœur. Dans ce but, il désirait être auprès d'eux et leur parler différemment. En attendant, il était en perplexité à leur sujet et était donc contraint de leur parler très directement. Versets 21 à 26. Citation de l'Écriture. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, et c'est Agar, car Agar est le mont Sina en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Fin de citation. L'apôtre en appelle maintenant à la loi elle-même pour montrer la folie de revenir à elle. S'ils ne voulaient ni entendre l'évangile ni écouter l'apôtre, qu'ils écoutent au moins la loi vers laquelle ils se tournaient. L'apôtre rappelle d'abord l'époque d'Abraham et utilise des faits de son histoire comme une allégorie pour nous enseigner le contraste entre la servitude d'un croyant sous la loi et la liberté d'un croyant sous la grâce. Abraham avait deux fils par des femmes différentes, l'une servante, l'autre femme libre. Le fils de la servante naquit selon la chair, entièrement en accord avec la volonté de l'homme. Celui de la femme libre naquit par l'intervention souveraine de Dieu. Ces deux femmes représentent les deux alliances. L'alliance de la loi fait dépendre la bénédiction de l'accomplissement par l'homme de ce à quoi l'alliance l'engage. Dans l'alliance de la promesse, la bénédiction de l'homme dépend entièrement de la grâce souveraine de Dieu. En outre, les deux fils représentent les deux conditions qui résultent de ces alliances. L'une, une condition de servitude, et l'autre, une condition de liberté. De plus, ces deux alliances et les conditions qui en résultent se rattachent au mont Sinaï, où la loi a été donnée, et à la Jérusalem d'en haut, d'où la grâce souveraine afflue vers le monde. Verset 27. Citation de l'Écriture. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile qui n'enfante point. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. » Fin de citation. La Jérusalem terrestre et ses enfants, qui se vantaient de la loi, étaient tombés par la loi dans la servitude, et après avoir violé la loi, étaient devenus délaissés, verset 27, et désolés, Ésaïe 54, verset 1. Néanmoins, le prophète Ésaïe est cité pour montrer que, pendant le temps de sa désolation, il y aurait plus d'enfants que du temps où la ville était reconnue comme le centre terrestre de Dieu. Cela ne voulait-il pas dire que la ville même qui avait démontré la culpabilité de l'homme deviendrait le lieu à partir duquel l'évangile de la grâce de Dieu se répandrait dans le monde entier? Le Seigneur avait dit aux apôtres que la repentance et la rémission des péchés étaient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc 24, verset 47. Versets 28 à 31. Citation de l'Écriture. Or vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Fin de citation. Retournant à son allégorie, l'apôtre dit que les croyants sont maintenant comme Isaac, les enfants de la promesse. Or, il arriva qu'au jour où Isaac fut sevré, Ismaël se moquait. Et maintenant aussi, celui qui est né selon la chair et sous la servitude de la loi veut persécuter celui qui est né selon l'esprit et dans la liberté de la grâce. La chair et l'esprit sont toujours opposés. Comme il en était dans la maison d'Abraham, ainsi en est-il dans le monde, et même dans le cœur du croyant, du saint. Les juifs religieux persécutaient toujours l'apôtre. L'alliance de la loi et la condition de servitude, représentée par la servante et son fils, doivent être chassées. Car nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre.